Radio G. www.radio-g.fr. Radio G. 101.5 FM.
Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, pas enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète. Je n'étais moi aussi après tout qu'une bête, mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu, je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Il est 21h passées et nous retrouvons l'équipe imaginaire sur 101.5 sur Radio G.
Salut.
Salut, alors...
Bonsoir.
Équipe réduite ce soir puisque Prof Patrice va arriver dans quelques instants pour faire sa chronique. Romu, tu vas nous parler de quoi?
Je vais vous parler des jeunes et des vieux.
Des jeunes et des vieux, rien et que ouais. Ça. Ça va, c'est large.
C'est large.
Tyrannosaurus Empyreum va commencer l'émission dans quelques instants, mais surtout ce qu'il faut annoncer, c'est quand même l'interview exclusive de Alexandre Granger, qui va donc clôturer cette dernière émission de la saison pour l'association Imaginaire. On commence tout de suite avec le Tyrannosaurus Empyreum.
Salut les Graissins. Bon ça c'est mon côté un petit peu italien, je pense. Cette année, Imaginaire s'est déroulé dans une salle où je pouvais entrer. C'est pas trop tôt. Les greniers Saint-Jean sont immenses et j'ai réussi à me caser au fond, à droite de la scène, me camouflant habilement comme une arche de maçonnerie, et j'ai vu plein de trucs. Bon, je vous le fais dans le désordre. Alors, pas de bol. La cuisine et le bar étaient à gauche de la scène. Il y avait des villas campa à la manœuvre et ça y allait. J'ai pas pu goûter, mais ça tombe bien. Il y a toujours des petits curieux qui veulent voir ce qui se passe derrière. Et j'adore les petits curieux. Sinon, il y avait du beau monde. Dont la vedette américaine, Bruce Holland Rogers. Un fabuliste. Non mais, un fabuliste. Pourquoi pas un scribe égyptien aussi? Bon, ok, il est adorable et son texte en frontière est une véritable découverte. Oui, je lis l'anthologie Imaginaire 2019 Frontières en ce moment. Je vous ferai une petite chronique bientôt. Et dans le polar, il n'y avait encore pas grand monde, mais c'était du beau. Jérémy Bouquin, encore de la coolitude absolue concurrentielle du beau gosse, président d'Imaginaire. Ça change de l'ancien. Et je te le donne, Émile, du lourd en la personne de Yann Manouk lui-même, qui est un bon gars, faut bien le dire. En jeu de rôle, il y avait Jérôme Verschuren qui faisait jouer Robert Darvel, Arnaud Cuidet, Villa Campal Grassouillet et un jeune homme charmant prénommé Manu. Il y avait aussi Laurent Wall et la charmante Cassandre de Delphes qui, je crois, sait tout faire. Les Colénaux, qui ne tatouaient rien, une fois n'est pas coutume, mais montraient comment ils étaient aussi doués avec un crayon qu'avec une aiguille. Il y avait Brice Tarvel l'Ancien, la petite Cindy Canvey, qui sera l'année prochaine en star 2020. Il y avait aussi dans le registre, la colitude ne l'a pas oublié, Jean-Laurent Del Socorro, et puis Sylvie Miller, la comparse de Philippe Ward pour les Lacères, et puis Ophélie Bruneau, bien sûr, et Boris Beuzelin lui-même en vrai. Et d'autres que je n'oublie pas, mais je ne vais pas non plus faire une chronique annuaire. Et puis, il s'est passé des trucs marrons. Les allumés de l'Anjou Saber Club se sont battus à grands coups d'épée laser. Il y a les trois gamins d'Entropie Zéro qui ont mis le feu au grenier sur du riff mélodieux avec tout un tas de groupies énervées comme des puces sur un pitbull diabétique. Et le lendemain, on a eu droit à un concours de cosplay. Et je n'en ai dévoré aucun. Bref, c'est ballot. Vous avez peut-être raté ça. En même temps, il y avait déjà beaucoup de monde, ça évite de se piétiner. Bon, là, je suis sur frontière. En dehors des illustrations, les textes sont plutôt bons, voire très bons pour certains d'entre eux, et c'est d'eux dont je vous ferai la chronique que vous pourrez bientôt retrouver sur le site de l'association. Mais vous pouvez déjà y aller de confiance, alors faites-le, ou je vous bouffe.
C'était le Tyrannosaurus Imperium, prof Patrice qui vient d'arriver. Alors,
bonsoir.
De quoi est-ce que tu vas nous parler cette fois-ci ?
Oh, je vais délirer un peu sur les voyages dans l'espace.
Alors, délirer est un bien grand mot. Est-ce que
je
tu
dis
peux...
délirer parce que ça ne va pas être du tout scientifique, mais ça ne va pas être guerre des étoiles non plus.
Parfait. Bon, au moins, c'est un peu plus précis que ce que nous a dit Romuald sur sa chronique.
Alors, moi, je fais du teasing, moi.
Toi, d'accord. Bah, justement, ça tombe bien, ça va être à toi de parler. Est-ce que tu es prêt ?
Ouais. Dans une société vieillissante telle que la nôtre, la nostalgie marche à plein pot. Alors, c'est d'autant plus ironique que dans les genres de l'imaginaire, nous sommes inondés de romans jeunesse et autres young adultes. Romans dont l'âge réel des lecteurs dépasse souvent celui de la cible initiale, n'est-ce pas Pierre-Marie ?
Oui.
Oui, voilà. Je te vise pas du tout.
Non, pas du
non,
tout. Je me sens
non,
prêt.
Mais... Dans les récits destinés aux plus jeunes, pas encore vieux, dont Pierre-Marie, les héros se situent entre l'enfance et le début de l'âge adulte. Alors c'est une évidence qu'il est plus facile quand on est une jeune fille de 13 ans de se projeter dans le personnage de Béatrice Prior, 16 ans, destinée à devenir audacieuse, que dans la peau de Jean-Michel, 53 ans, expert comptable chez EDF.
T'as un souci avec les experts comptables ?
Non, bah absolument pas. Sauf ce 53 ans. Mais entre les deux. Hein. Moi-même, je n'hésiterais pas à choisir l'héroïne de Divergente, hein, étant pourtant plus proche de Jean-Michel pour des raisons que je ne dévoilerai pas ici. On est là dans la lignée directe du Bildungsroman, le roman initiatique, hein, un genre littéraire où l'on suit l'évolution d'un héros de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte, parfois sur plusieurs décennies. Alors, le roman initiatique a la particularité d'accompagner autant le personnage principal que le lecteur vers une ascension personnelle. On parle plus précisément de roman d'apprentissage. Alors, on peut y ranger quelques grands classiques comme Les années d'apprentissage de William Meister de Goethe, Tom Sawyer, L'éducation sentimentale de Flaubert, David Copperfield de Dickens, voire même l'Odyssée d'Homère. Et concernant notre culture populaire contemporaine, la saga Harry Potter. L'auteur J.K. Rowling déroule chacun de ses opus sur une année scolaire, au rythme d'un roman publié par an de 1987 à 2007. Le jeune lecteur peut donc suivre en temps réel l'évolution de son orphelin préféré, tout en découvrant à travers un style accessible des aventures de plus en plus sombres, au fur et à mesure que lui-même grandit. Tour de force supplémentaire, beaucoup d'adultes ont cédé à la Harry Potter mania, ce qui permet à la saga de dépasser sa condition de simple roman d'apprentissage. Les succès de ce genre littéraire réinventé se sont succédés ces dernières années, couronnés de nombreuses adaptations cinématographiques telles que Hunger Games, Divergente ou Le Labyrinthe. Côté roman, le cycle de Sif de Patrick Noé, publié aux excellentes éditions Au Diable Vauvert, se range dans cette catégorie du roman d'apprentissage. On y retrouve les ingrédients orphelin et prophétie, bon, des éléments qui ont le plus souvent le don de m'agacer, mais pas dans ces deux premiers romans du cycle que sont L'Enfant de Poussière et La Peste et la Vigne. Dudeney met en place un univers médiéval cohérent et immersif où la magie émerge en arrière-plan, un petit peu à la manière du Trône de Fer de Martin, et nous frappe par son réalisme. On ne doit pas être le seul à apprécier puisque le cycle a remporté le Grand Prix des Imaginales cette année, soit tout simplement le plus important prix littéraire français de fantasy. À l'autre bout du spectre des jeunes héros, on a les
expérimentés.
Les vieux. Et là, nouveau cliché. Hein, mais alors, pardon. Et là, niveau cliché, on monte d'un cran. Le premier cliché, c'est les vieux sont des mentors. Gandalf, Yoda, le Doc de Retour vers le Futur, Tortue Géniale de Dragon Ball. Obi-Wan Kenobi. Et ils sont systématiquement des êtres de sexe masculin. Alors, je dis des êtres hein, parce que j'avais dit Yoda. Oui. Ah, parce que c'est bien connu, hein, les hommes détiennent la connaissance au détriment des femmes, la connaissance c'est aussi le pouvoir, mesdames. Second cliché, les vieux sont les adversaires du héros. Et là, on trouve aussi des vieilles, dans ce cas-là, hein, avec l'archétype de la sorcière. Pensez au Disney, hein, et vous en trouverez une belle brochette. Cependant, il existe bien heureusement des exceptions nombreuses, par exemple dans le polar. Je pense particulièrement au récit d'enquête, où la sagesse et l'expérience du protagoniste sont des atouts essentiels pour dénouer le nœud du mystère, tels ceux des romans avec Miss Marple, le commissaire Maigret, etc. Le problème du vieux dans les autres types de récits, c'est qu'ils n'ont plus la vie de venteux, si j'ose dire. En effet, à l'inverse du roman d'apprentissage, les vieux sont des personnages finis. Dès lors, deux ressorts peuvent être utilisés. L'apprentissage tardif, c'est-à-dire l'évolution surprise d'un héros, pourtant présenté initialement comme monolithique, ou l'approche de la mort. Druss, la légende, est sans doute le roman le plus connu du regretté David Gemmell. Druss était un redoutable combattant presque invincible qui détient une hache habitée autrefois par un démon. Était, car aujourd'hui Druss a 60 ans et est terrifié par l'idée d'un déclin inéluctable avant de disparaître. Alors la mort va lui proposer un marché, vivre 40 ans de plus en paix, ou participer à un combat sans espoir en allant défendre une citadelle, Draenei, réputée imprenable, mais tenue par 10 000 guerriers contre une armée nadir forte d'un demi-million d'hommes. Bon, bref, vous avez imaginé, vous avez bien deviné en tout cas quel va être le choix de Druss. Il ne va pas rester à la retraite.
C'est d'ailleurs le choix qu'a fait Achille en allant faire la guerre de Troie.
Alors Achille n'était pas si vieux que ça.
Oui.
C'est la différence. Mais bon, on s'égare. Le film Rocky Balboa de 2006, soit le sixième de la série des Rocky, emprunte un angle de vue un peu différent. On découvre un ancien boxeur qui a tout perdu, sa femme emportée par un cancer, sa fortune, sa gloire, sa jeunesse. Le chemin du héros va le mener à regagner du terrain sur la vie, sans pourtant effacer les profondes cicatrices héritées de son parcours. Et en cela, il s'agit d'un film fort et touchant. Enfin, il existe une catégorie d'imposteurs que j'appelle les faux vieux. Hein. Ce sont les vampires et autres créatures immortelles. Dans la plupart des productions actuelles, les vampires sont dotés d'une apparence éternellement jeune, mais aussi d'une psychologie de gamin de 17 ans. Alors, j'imagine que cette immaturité s'explique par un mécanisme de défense hein, de la part d'Edward Cullen de la saga Twilight. Hein. En effet, comment sinon, à 109 ans, supporter une nouvelle journée au lycée au milieu d'un tas de morveux qui pourraient être ses arrière-petits-enfants ? Bref, que cela ne vous empêche pas de lire ou relire Entretien avec un vampire d'Anne Rice, et si les vampires ne vous tentent pas, précipitez-vous sur le remarquable roman post-cyberpunk L'âge de diamant, de Neil Stephenson, qui est construit comme un roman d'apprentissage classique. Cet ouvrage a remporté à la fois le prix Locus et le Hugo en 96, et c'est mérité. Lisez aussi la saga de l'assassin royal de Robin Hobb, ou découvrez sur Netflix le film sud-coréen The Chase, qui met en scène des vieux qui vont mener une enquête sur une série de meurtres de personnes âgées. Et puis n'hésitez pas à vous offrir un plaisir régressif cet automne en allant voir en salle Rainbow Five Last Blood avec un Sylvester Stallone encore plus vieillissant que dans Rocky Balboa. 73 ans au compteur, le pépère, hein, et puis il va pourtant décaniller pas mal. Avec une telle prescription, la prochaine canicule n'aura aucun effet sur vous.
Arms to the ground, far from the rivers. Grace in our tears, high on a fever. Somebody heal me from my pain. I'm reaching closer. The stars have a mirror, filling up lost memories. Holes in the sky, pierced by the fire. Somebody tell me this is real. Ooh.
d'accord et ça plane, hein.
Surtout la fin.
Ouais, donc c'était M83, Holes in the Sky. M83 qui est un groupe qui a fait pas mal de BO ces temps-ci, dont Divergente, là c'était tiré de Divergente 2, avec les sœurs Haïm. Et ils ont fait aussi la BO d'Oblivion, hein, avec Tom Cruise. Et puis moi j'avais bien aimé le clip de Midnight City, qui reprenait un petit peu le cliché d'Akira, avec les enfants qui ont des pouvoirs télékinésiques. Enfin, ils sont quand même assez planants et dans la science-fiction comme on aime.
Et on pourrait rebondir sur le thème des vieux et des jeunes, ouais. Avec une phrase avec un jeune du chat ouais. De Philippe Geluck, qui demandait, mais vous savez, la différence entre les vieux et les jeunes. Et on répondait, bah, c'est qu'au moins les vieux, ils sont sûrs d'avoir été jeunes.
Merci Patrice pour cette pensée extrêmement profonde qu'on doit donc à Geluck. Eh bien, je viens de me faire engueuler pendant l'émission et surtout pendant la musique de Romuald, pendant que les auditeurs étaient en train de planer, moi je me faisais engueuler, toujours sur le 5.5. J'ai Tyrannosaurus qui est arrivé et qui m'a dit que j'avais pas passé le bon enregistrement et qu'il est pas content et que là il était actuellement en train de...
Il va te bouffer.
Il était en train de se dorer la pilule sur la plage et il est revenu spécialement pour ça. Donc, on va faire passer l'interview d'Alexandre Granger et puis je remettrai la bonne séquence. Rendez-vous avec Alexandre Granger dont vous avez pu admirer les œuvres au Grenier Saint-Jean. Wow. Et surtout, c'est lui qui a fait notre affiche pour l'année donc 2019. Tous les visuels qui ont été faits pour
et la couverture du bouquin
sont d'Alexandre Granger. Ouais,
c'était magnifique.
Alors, entretien avec Alexandre Granger dans le cadre d'Imaginaire. Alexandre Granger, eh ben, au nom de l'association, je te remercie d'avoir accepté de te livrer ce petit entretien. Alors, juste un petit mot pour introduire la chose, c'est que je vais raconter un petit peu comment on s'est rencontrés tous les deux. Alors, tous les ans, il y a une association de la Pommeraye qui organise une exposition d'artistes d'Anjou et du coin. Et il y a 2 ans, avec Carmen, on y est allé en famille. Et on s'est arrêté stupéfait face à ton travail, et en particulier la nuit princesse au chewing-gum pour laquelle nous avons tous voté. Et d'ailleurs, tu as gagné le premier prix de la Pommeraye cette année-là. Alors explique-nous, si tu veux bien, comment tu t'es retrouvé là-bas et ce que t'as rapporté ce prix.
Alors je me suis retrouvé là-bas par hasard. En fait, je viens d'arriver sur Nantes et donc du coup. Entre artistes, on s'échange les bons plans, les bonnes adresses. Et donc, du coup, on m'avait indiqué cette expo. Donc, du coup, j'y suis allé. Et puis, j'ai eu la belle surprise d'avoir eu le premier prix du public. Donc, le prix du public. Et est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté de faire ta connaissance. Et puis, surtout, de connaître le Festival Imaginaire.
Oui, alors c'est vrai que suite à ça, t'avais laissé ta carte, donc j'ai pu prendre ton numéro de téléphone. Je t'ai appelé et t'as assisté à Imaginaire 2018.
Ouais.
Et l'équipe avait été bluffée par ton travail, et du coup, il a été décidé, après un AG mémorable, que tu serais l'invité d'honneur d'Imaginaire 2019, et l'illustrateur, et de l'anthologie, et de l'affiche.
Ça m'a fait bizarre, parce que c'est un milieu que je ne connais pas du tout, donc que j'ai découvert, grâce à vous. Et du coup, j'ai une belle fierté de pouvoir le faire. Surtout que ça fait un petit moment que je rêve de travailler dans l'édition, l'illustration. Et donc, du coup, j'y ai vu une petite porte qui s'entrouvrait pour moi.
T'as pu voir quand même des gens, des professionnels, des choses comme ça ?
Oui et non. Non, parce que je suis quelqu'un de très timide et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à aller vers les autres. Et après, ouais, cette année, oui, j'ai rencontré un éditeur parisien. Donc on a beaucoup discuté, et voilà quoi.
Alors, on va revenir un peu en arrière. Alors tu es né en 1970, qui est un très bon cru, et tu es rentré ensuite, mais pas tout de suite, à l'école d'art de Bayonne. Alors qu'est-ce que tu faisais de beau à l'école d'art de Bayonne ?
Alors l'école d'art de Bayonne, en fait, je suis de l'école de Guy de Graine, c'est-à-dire moi j'ai appris à dessiner à l'école, c'est-à-dire... très mauvaise scolarité, donc du coup j'étais l'élève au fond de la classe à côté du radiateur, donc du coup comme je m'ennuyais tellement, je passais mes journées à dessiner, et donc du coup j'ai pas eu mon bac, et comme en France il faut avoir le bac pour faire les beaux-arts, donc du coup j'ai fait une école qui préparait au concours des beaux-arts, donc j'y suis allé 1 an, où là on nous apprend à faire le dessin académique, cours de nu, nature morte et tout ça. Et à la fin de cette année, j'ai discuté avec le professeur de cette école et qui m'a dit que j'avais pas ma place dans les Beaux-Arts, que voilà, j'avais déjà mon style et que aller aux Beaux-Arts ne m'apporterait pas grand-chose si ce n'est un diplôme. Donc du coup, je me suis renseigné et puis j'ai pris la décision de pas rentrer aux Beaux-Arts.
Alors du coup, ça doit un petit peu compliquer le parcours pour la reconnaissance du travail, peut-être.
Oui et non, parce que en fait, le milieu artistique, enfin, t'as pas besoin de diplôme. Je pars du principe que si tu sais dessiner, tu sais dessiner. Donc,
Par exemple, t'as essayé dans la pub, t'as essayé de faire des trucs, t'as toujours été dans l'illustration, dans le portrait.
Alors pendant des années, j'ai pas fait ça déjà. D'accord. Pendant des années, j'ai joué au basket. Donc déjà, ouais. Je pas du tout dans le monde du dessin.
C'est pour ça que tu fais 2 mètres.
Ouais. Avec des talons, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, en fait, je me suis mis freelance, graphiste freelance, pendant 4 ans, et donc du coup, ça m'a aidé à apprendre l'ordinateur. Je me suis formé tout seul, en fait. Que ce soit pour le dessin ou pour la PAO ou le graphisme, je me suis toujours démerdé tout seul. Et donc du coup, ouais, je me suis mis en freelance, et puis au bout d'un moment, j'ai lâché l'ordinateur et la souris, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de me lancer en tant que artiste, entre guillemets, quoi, et faire des expos perso et collectifs, quoi. La passion est venue de mon grand-père quand j'allais en vacances chez lui, qui, lui, il peignait beaucoup, il utilisait toutes les techniques qui existent. Et donc, j'arrêtais pas de l'embêter quand il était derrière son chevalet. Donc, du coup, il me donnait à reproduire des pochettes d'Astérix, Lucky Luke, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, je restais à côté de lui et je recopiais les couvertures de ses magazines et de ses BD. Et donc, ça m'a donné le goût du dessin et de se dire qu'avec juste une feuille blanche et un crayon, on peut arriver à faire plein de choses, quoi. Et j'étais fasciné par son travail et ce qu'il arrivait à faire, lui, avec des pinceaux, quoi.
Alors, on va faire un truc hyper réducteur. Si on devait te caser dans un genre, ça serait quoi?
Alors, au niveau de mon style, c'est entre l'hyperréalisme et le trompe-l'œil, en fait. L'hyperréalisme, en fait, c'est tout ce qui est vraiment un style très photographique, mais dimension plus grande que nature. Mmh. Et le trompe-l'œil, par contre, c'est taille et taille réelle. Et avec l'illusion du trompe-l'œil, quoi. Donc ce serait plutôt... j'aime pas trop les cases.
Oui, j'ai bien dit, si on était obligé.
Donc moi, quand on me demande, je dis, voilà, je suis un figuratif, dessinateur figuratif, quoi.
Ok. Alors, est-ce que tu as des références dans le monde de l'art?
Dans le monde de l'art, ouais, j'ai deux artistes qui me plaisent. C'est William Bouguereau, peintre du 19e, né à La Rochelle, peintre français, qui au niveau du cœur en main, me scotche à chaque fois que je vois un de ses tableaux. Et après, tout ce qui est humour et dessin, c'est Norman Rockwell, qui est, je trouve, fantastique, quoi. Et après, niveau de l'inspiration, je crois que c'est, comme je te disais tout à l'heure, déjà, il y a mon grand-père qui, techniquement, m'a beaucoup inspiré, mais il y a aussi indirectement mon père qui est un grand lecteur de BD et de romans policiers. Et quand j'étais tout petit, je regardais avec passion les couvertures des San Antonio et des SAS. Et du coup, je pense que ça m'a donné, ça m'a donné envie de faire ce style où en un dessin, tu arrives à résumer beaucoup de choses. Beaucoup de sentiments, beaucoup de mots. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, aujourd'hui, quoi.
Oui, alors tout à l'heure, par exemple, tu parlais de Gourdon avec San Antonio. Et donc ça, oui, effectivement, il y a beaucoup de travail en une image. Il faut faire passer un message et tout ça. Et ce en quoi tu excelles, d'ailleurs?
Je ne sais pas si j'excelle, mais je trouve ça fascinant qu'un type, sur une image, arrive à résumer un... 200, 300 ou 400 pages, quoi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes dessins. C'est-à-dire, je pars du principe que quand je dois expliquer mon dessin, c'est que j'ai raté, j'ai perdu, quoi. Donc, c'est normalement avec le titre et le dessin, les gens doivent comprendre ce que j'ai essayé de faire passer comme message.
Oui, alors c'était justement au travers de tes œuvres, outre la technique dont tu fais preuve, c'est visible, quoi. En dehors des portraits où là c'est factuel, pour le reste, c'est vrai que tu fais passer des messages. Et est-ce que tu pourrais nous en parler de ça? Alors, pas décortiquer les éléments de ton travail, hein, on va pas faire ce que tu détestes, mais plutôt le sens général de ce qui te touche. T'as le droit à une minute de réflexion avant de répondre.
Non, je ne sais pas si j'essaye de faire passer un message, j'essaye de faire passer bon message. Après, je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très timide. Je serais incapable de prendre la parole devant 100 ou 200 personnes. Donc, ce que je fais, c'est que en dessinant et en faisant mes tableaux, j'essaye de toucher le plus grand nombre de personnes autrement que par la voix et par ma parole.
D'accord, alors là, malheureusement, on est à la radio, donc on ne va pas pouvoir montrer tes œuvres. Alors justement, si tu devais classer quelques messages forts que tu veux faire passer, ce seraient lesquels, par exemple ?
L'absurdité de certaines choses. Enfin, voilà. Et puis, c'est la question la plus compliquée qu'on me pose à chaque fois.
Bon ben on arrête. Bon tu.
Non mais j'aimerais trouver une réponse à cette question. Mais je crois que quand je dessine, je cherche pas. Je dessine ce que j'aime. Après que les gens ils voient un message ou pas de message, ça me concerne plus.
Alors oui, d'accord. Alors, si je prends par exemple le crâne de Mickey ou le crâne d'Harry Potter, il y avait un fond autre que la simple dérision ou...
Alors ouais, parce que j'ai jamais vu un Disney de ma vie. J'ai eu la chance que mon père me nourrisse au Tex Avery. Donc du coup, pour moi, Disney, c'est un monde que je ne connais pas et que j'ai pas envie de connaître. Et donc du coup, oui, ouais, il y a un message par rapport à ça, c'est que...
Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Alors, tu as, comme disait Jean-Luc, dessiné un crâne de...
Alors c'est Pierre-Marie qui intervient dans l'interview.
Voilà. Ouais, j'arrive pas à ne pas parler dans une interview, c'est bizarre. Mais ton avant-dernier dessin qui est sorti sur un des réseaux sociaux hyper célèbres montre un Mickey en camisole. C'est quand même vachement intéressant comme prise de parti. Est-ce que tu peux parler un peu de celui-là?
Mais non, on a dit qu'on ne décortiquait pas les œuvres.
Ah oui, celui-là.
Non, celui-là, en fait c'est... C'est parce que ce monde de Mickey, de Walt Disney, ça me parle pas du tout, quoi. C'est trop gentil, c'est trop lisse, c'est trop propre pour moi. Et
pour revenir à ce dessin-là, je tiens quand même à préciser, il faut absolument le voir. Vous le trouvez sur On Paper Art, qui est ta page Facebook professionnelle où on retrouve la totalité de tes illustrations, et ça vaut le coup d'œil.
Merci, c'est gentil.
Eh bien, écoute, on va se livrer au petit jeu du portrait chinois, qui est une tradition pendant les entretiens d'imaginaire. Par exemple, alors on va commencer simple. Hein. Si tu étais un animal fossile du précambrien, si tu étais un artiste, qui aurait aimé tu être?
Et pourquoi? Un artiste vivant, mort, on s'en fout, ouais. N'importe lequel.
De cinéma, de...
Un guitariste. Je suis fasciné par ces gens-là. Un guitariste, ouais. Moi, mon idole absolue, c'est Slash. Donc, j'aurais bien aimé être lui, quoi.
Imaginons, c'est la fin du monde demain. Bon, c'est pas pour demain, c'est dans quelques années, mais pas loin. Tu as la possibilité de sauver une œuvre d'art sur toutes celles qui existent.
Je crois que je sauverai la Vénus de Bourreau. Parce que c'est ce tableau qui va donner envie de faire. De dessiner les gens.
Or, l'association Imaginaire est une association extrêmement lucrative, tout le monde le sait, et on a des fonds illimités. On a la possibilité de t'offrir le véhicule de ton choix, existant ou inexistant. Lequel et pourquoi ?
Je crois que je prendrais le... le Goldorak, le vaisseau de Goldorak. Je sais pas pourquoi, ou alors peut-être le vaisseau de Sankukai. Enfin, ça c'est... Voilà, c'est... Je sais même pas comment il s'appelle, ce pauvre vaisseau. Mais...
Ça vient d'une passion que tu avais quand tu étais enfant.
Ah, j'étais fan de ces deux dessins animés-là, quoi.
Comment est-ce que tu les as découverts? Comme ça, à la télé par hasard?
Ouais, à la télé par hasard, quoi. Et puis, quand on se retrouvait le week-end avec mes cousins, on s'amusait à jouer sans Kukai, quoi. On se faisait des pauvres couteaux comme ils avaient à l'époque, enfin des épées. Et on se mettait des masques de ski sur la tronche et on jouait à ça, quoi. Donc, ce serait un des deux, quoi.
Ok, bon, bah écoute, très bien. Alors, la dernière question, c'est quelle musique tu aimerais entendre après notre entretien ?
Alors, j'aimerais bien écouter le Anastasia de Slash, qui est sorti sur son dernier album, que je trouve, moi, à tomber, quoi.
Parfait. Donc, merci de nous avoir accordé de ton temps. Et puis, je souhaite de bonnes vacances, plein d'expos et puis plein de ventes surtout.
C'est gentil, merci à vous de m'avoir invité.
c'était donc le titre Anastasia du groupe Slash qui est passé au Hellfest récemment. C'était le choix d'Alexandre Granger.
Le guitariste Slash.
Le quoi ?
C'est le guitariste Slash, c'est pas un groupe en fait.
Ah, c'est le guitariste. Et alors c'est quoi le groupe ?
Bah, je sais plus d'ailleurs, mais en fait c'est un groupe qui l'accompagne pour que lui puisse faire ses petits solos tranquilles quoi.
D'accord, bon, ça va, il y en a qui s'amusent comme ils veulent.
Bah oui, c'est le guitariste des Guns N' Roses. Il a le droit de faire ce qu'il veut.
Effectivement, dit comme ça, oui.
Le guitariste des.
C'était un cours de musique proposé par Romuald sur Radio Géo 101.5. Comme je vous le disais, donc, je vais rattraper le train de retard et vous passer le Tyrannosaurus Imperium qui aurait dû passer en début d'émission.
Il va te bouffer. Hein.
Il va me bouffer, mais ça, c'est pas grave. C'est la fin de l'émission, on n'a plus besoin de moi. Et vous avez donc pu entendre au début d'émission celui qui était passé il y a 2 semaines à l'issue donc, du Salon Imaginaire.
Ouais, bah oui, j'ai décidé de faire dans le local. Comme vous le savez, les reptiles, même immenses, ont un peu de mal avec la canicule. Je me trouve donc en été une caverne bien fraîche, où je vais avec un téléviseur géant, ça me sert de tablette, et une série de DVD de séries anglo-saxonnes. Oui, bien fraîche la caverne, s'il vous plaît. La dernière fois que je suis resté dehors en été, je me suis un peu enflammé, et j'ai bouffé à peu près tout ce qui passait. Bon, le gouvernement du moment m'a envoyé tout un tas de types avec des cure-dents métalliques, des pièges ridicules. Ils étaient entourés de fer, un peu durs à mâchouiller, mais c'est marrant, j'avais tout le jus dans la bouche. Mais ça m'était un petit peu trop le cirque, j'ai donc décidé de me retirer au frais. Parce que si tout le monde se sauce, je mange quoi, moi ? Oui, c'était dans un bled paumé, du côté de Gévaudan. Comment j'ai choisi mes séries ? Bonne question, Marcel, je te mangerai en dernier. Je suis allé sur Facebook et j'ai demandé aux intelligents de mes fréquentations, genre Sylvie Denis, Laurent Genefort, tu vois. Et je me suis donc retrouvé avec American Gods, tiré du roman éponyme de Neil Gaiman. Bien que j'ai lu le roman à sa sortie, ça dépote quand même au niveau du bizarre. Tu vois Twin Peaks ? Bah c'est pareil, mais en pire. Je résume. Les dieux anciens, poly et monothéistes, perdent leurs croyants alors que les dieux modernes, télévision, langage binaire, en gagnent. Les anciens, avec le voyageur à leur tête, décident de livrer la guerre aux modernes. Ombre, le héros de la série, est en prison pour un braquage qui a mal tourné du fait de la maladresse de son épouse. Épouse qui décède dans un accident de voiture avec le meilleur ami d'Ombre alors qu'elle lui administrait une fellation. Non mais c'est vrai, ça déconcentre. Sorti de prison pour assister à l'enterrement de sa femme, Ombre se fait recruter par le voyageur comme garde du corps, et les ennuis commencent. Alors, toujours de Gaiman, mais avec son compère Terry Pratchett, Good Omens, soit de bons présages en français. Non, parce que c'est trop la classe de parler en anglais, genre... J'ai briefé le back-office après un meeting de brainstorming avec le CIAO. Ou alors, ça fait super blaireau, c'est au choix. Un ange et un démon, qui est interprété par l'incontournable David Tennant, sont devenus amis après 6000 ans passés sur Terre. Bon, soyons sérieux, ils ne se disent pas amis, hein. Ceci dit, leur amour commun de l'humanité les rapproche. Ainsi, lorsque le diable décide de la naissance de l'Antéchrist afin de générer l'Apocalypse, et que les anges laissent faire prêt à la bataille qu'ils sont sûrs de gagner, les deux compères s'interrogent. C'est drôle, émouvant et très malin, mais c'est vrai que c'est bizarre aussi. Du coup, je me suis rabattu hier soir sur Penny Dreadful avec Timothy Dalton, dont j'ai regardé la première saison. C'est en décor victorien d'époque, ça démarre assez fort, vampires, créatures dépeceuses et un certain Victor qui nous rappelle bien quelque chose. Dans ces 3 séries d'intérêt, une chose commune, en plus de la bizarrerie et de la qualité scénaristique et de distribution, c'est la qualité de l'image. Certains plans mériteraient d'être regardés 2 fois. C'est très beau et c'est très bien filmé. Du coup, n'hésitez pas, regardez-les ou je vous bouffe.
So rock, rock me, rock. We're gonna rock till we pop, we're gonna rock.
C'était les Stray Cats que vous avez pu entendre à la radio. Alors Romain avait décidé de passer ce groupe-là puisqu'ils ont fait une tournée pour leurs 40 ans et surtout parce que c'est un groupe qui était présent dans le premier épisode de la dernière saison de Stranger Things.
Paraît-il.
Ça doit être vrai.
Est-ce que vous avez regardé un petit peu cette nouvelle série, cette nouvelle saison de Stranger Things?
Pas encore. Je sais qu'autour de moi, il y en a qui l'ont vraiment.
Ah, me racontez pas, j'ai pas vu la première.
ça, c'est des disponible depuis sur Netflix depuis le 4 juillet. Alors,
il y a aussi une bande dessinée, un comics là, qui vient de sortir sur un peu l'arrière-plan de Stranger Things.
Il y a aussi l'envers
du décor. Oui. Romans, comme quoi, il y a un univers qui doit être assez vaste.
Prof, t'es prêt? Ça va être à toi?
Je crois que je suis prêt, oui. Aïe. Cette excellente musique de Basil Poledouris, bande originale du film Starship Troopers. Alors ça tombe bien parce que je vais vous parler un peu du voyage dans l'espace. Alors pour vous mettre dans l'ambiance, vous allez vous imaginer sur un circuit de Formule 1, hein, sur Terre là, avec au départ une deux chevaux, une quatre chevaux, une DS, je ne prends pas spécialement, c'est comme ça me vient, une Formule 1, voilà, bon, bref. Et tout le monde appuie sur un bouton et ils arrivent à faire tous le même temps d'un seul coup. Ça vous paraît très bizarre, non?
Effectivement.
Et pourtant, quand vous regardez par exemple la guerre des étoiles, c'est exactement ce qui se passe. Que ce soit une toute petite navette, un gros stellaire hyper croiseur machin avec 10 000 personnes dedans, ah bah ils appuient sur un bouton et paf, c'est parti, et ils font la distance, là, exactement comme la deux chevaux et la Formule 1 en même temps, quoi. Moi, ça m'a semblé.
On dit pas de mal de Star Wars d'abord.
J'ai pas dit de mal de Star Wars.
Mais je préviens, je vois venir.
Bon alors, je tiens une précision, c'est que Star Wars n'est pas de la science-fiction, donc n'est absolument pas scientifique.
C'est vrai que c'est de la space opéra. Non, c'est pas du space opéra, c'est de la fantasy. Ce sont les codes de la fantasy. Il faut sauver une princesse. Bon, d'accord, il y a pas de dragon, mais il y a quand même des méchants. Bon.
Et il y a pas de cartes.
Et on s'égare.
Il y a
un peu
pas
du
de cartes.
Mais il y a du bruit dans l'espace. Par contre,
c'est vrai qu'il y a pas de cartes. Voilà, il y a du bruit dans l'espace. Non, je suis désolé. Le space opéra, c'est quelque chose qui peut être très scientifique. Je peux vous le dire, j'en écris en ce moment. Bref. Toujours est-il que moi je trouve qu'on peut faire des choses un peu plus intéressantes que d'imaginer qu'il n'y a qu'un seul moyen de se déplacer dans l'espace. De la même manière que sur Terre, il y a plusieurs types de véhicules, plusieurs vitesses, plusieurs. Voilà. Eh bien, on pourrait s'imaginer que si vous prenez un petit vaisseau ou un gros, bah, il ne se passe pas la même chose. On pourrait graduer les choses. Par exemple, vous vous déplacez normalement entre la Terre, la Lune et des trucs pas très loin. Bah, bon, c'est en cours d'étude aujourd'hui. Il y a la propulsion ionique là, hein, qui évite d'utiliser des combustibles chimiques, etc., qui sont très très pesants dans les réservoirs, et puis en plus ça pollue. Et voilà, vous vous baladez en propulsion ionique tranquillement. Bon, ça vous prend quelques heures pour aller à la Lune, etc., etc. Mais cela dit, ça ne vous permet pas d'aller facilement sur Mars, sur Jupiter, etc., parce qu'il vous faudrait quand même plusieurs mois. Donc, alors après, on peut imaginer un deuxième niveau. Alors, prenons ce qu'on appelait dans le temps le subespace. Ça, c'est vrai que c'est des trucs. Il y avait un bouquin de Jérôme Sériel, qui était un pseudo d'un auteur connu dont je ne me rappelle plus le nom, mais quelqu'un va me le dire d'ici.
Un mec vachement connu, un illustre inconnu d'ailleurs.
Non, je peux te dire, cherche Jérôme Sériel, tu vas voir, c'est un gars connu. Donc, le subespace. En gros, on se dit aujourd'hui, c'est la réalité. La lumière suit le plus court chemin. Le plus court chemin, ce n'est pas une droite dans l'espace, c'est une courbe parce que l'univers est courbé par la gravitation. Donc on appelle ça des géodésiques. Mais imaginons qu'on puisse réellement aller en ligne droite, c'est-à-dire s'affranchir de l'espace ordinaire et passer un peu dans un espace un peu sous-jacent. Donc on s'affranchit de la vitesse de la lumière et on peut aller beaucoup plus vite. Hein, un passage en séquence, allez, on va se balader dans le système solaire. En quelques heures. Jérôme Sériel, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Il n'y a pas le. Ben, cherche le. Tu vas voir qui c'est.
Oui, chef.
tu diverges.
Je diverge ce que tu veux. Donc voilà, donc ça peut être un deuxième niveau de déplacement qui permettrait notamment de se balader dans un système stellaire sans perdre trop de temps. Alors là, ça devient un peu plus compliqué si avec ce système-là. Qui pourrait être comparable à peu près à la vitesse de la lumière, aller dans d'autres systèmes solaires ou vers d'autres étoiles, sachant que la plus proche est à quand même quelque chose comme 4 années-lumière. Bon, ça prend déjà... Donc, il faudrait imaginer autre chose. Alors, on a entendu dire que la gravitation, qui est l'une des quatre forces fondamentales de l'univers, est la plus faible de ces quatre forces. Et malgré tout, ça reste un peu un mystère. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui. On a imaginé que ça pouvait être que parce que l'univers ayant plus de dimensions que celles qu'on peut percevoir avec nos sens, il se pourrait que la force de la gravitation se déploie dans d'autres dimensions. Alors imaginons, les scientifiques, bouchez-vous les oreilles, hein, parce que je vous dis tout de suite, j'imagine. Hein. imaginons que... on puisse, grâce à ces autres dimensions, utiliser la gravitation pour replier un peu l'univers. Il y avait d'ailleurs dans le Dune de...
Herbert.
Celui de David Lynch. Herbert, ouais. Il parle pas. Mais il parlait de ça, replier l'espace, etc. On pourrait imaginer qu'on pourrait replier l'espace, qui raccourcirait un peu les distances et qui permettrait donc d'aller encore plus vite et donc de se déplacer à raison de je sais pas quoi, 2 ou 3 années-lumière par jour, donc ça permettrait d'aller en un mois à 73 années-lumière, c'est bien, mais c'est pas suffisant quand on veut aller, par exemple, d'un bout à l'autre de la galaxie qui fait quand même 100 000 années-lumière, ça prendra un peu de temps. Donc là, on peut passer au niveau du quantique. Alors là, le niveau du quantique, imaginons que ce qui est possible au niveau des particules quantiques, l'intrication et le fait que 2 particules peuvent avoir n'importe quelle distance quand on observe l'une, l'autre finalement prend l'état inverse. Imaginons que ça soit possible au niveau macroscopique. Vous imaginez ça ? Une intrication quantique et pof, votre vaisseau, paf, il passe d'un instant à l'autre à une distance. Bon, faut pas exagérer, imaginons quand même que les techniques du futur ne nous permettraient pas d'aller plus loin que 100 000 années-lumière. Ce qui voudrait dire que finalement, les voyages vers les autres galaxies resteraient quand même très très compliqués. Sans compter qu'avec l'expansion de l'univers, ça rajoute de la quantité d'espace au fur et à mesure où on avance. Donc c'est... Alors pour ça, il faudrait peut-être imaginer une sorte de distorsion temporelle qui nous permettrait d'aller vraiment n'importe où, à n'importe quelle vitesse. Mais ça, comme on m'a dit, mon cher, vous êtes en pleine science-fiction.
Merci pour ces divagations, prof Patrice. Et peut-être qu'ils sont déjà en train de plancher là-dessus. On arrive à la fin de notre émission. Donc c'est la dernière émission de la saison. Et on va se quitter avec The Night Flight Orchestra. Le morceau Speedwagon. À bientôt pour de nouvelles aventures imaginaires.
À la rentrée.
Bonsoir.